Radio Divan, pour une psychanalyse populaire,
l'émission de Guylaine Dubois
et Luca Bielli,
produite et réalisée par
FM+.
Eh bien, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour Guylaine.
Bonjour Lucas.
Et bonjour Manu.
Bonjour Lucas.
Alors aujourd'hui, nous recevons Manu, qui est musicien, et avec lui, nous allons voyager dans l'univers du rhythm and blues et du rock'n'roll. Alors Manu, est-ce que vous pourriez vous définir? Comment est-ce que vous vous définissez?
Me présenter, je m'appelle Manuel, j'ai 30 ans, et ça fait 15 ans que je fais de la musique. Professionnellement, un peu moins de 15 ans, mais ouais, j'ai commencé tôt, à en vivre en tout cas. Et on continue toujours, comme on peut, mais ouais. Donc comment je me définirais, je sais pas trop. Chanceux de faire ma passion, enfin de pouvoir avoir un métier qui est ma passion, donc me lever le matin content de faire les choses.
Et cette passion, vous l'avez depuis toujours?
Ouais. Alors dans un malheur, j'ai trouvé un peu mon bonheur. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de commencer la musique assez tôt, même très tôt, à 5 ans. Plutôt comme une thérapie au début. Après que ma mère soit décédée, mon père m'a mis à la musique au lieu de me mettre chez le psy. Enfin, voilà. Donc c'était une alternative à ça. Et puis j'en ai fait mon métier, finalement. Donc ouais, c'était un médicament au début. Et ça l'est toujours, hein. Mais voilà, je suis tombé dedans un peu par hasard. Enfin, en tout cas, ça m'a énormément aidé quand j'étais petit. Et puis je me suis rendu compte que je pouvais en faire mon métier, donc c'est cool. Mmh. Voilà.
Alors, quand vous dites chanceux Manu, qu'est-ce que vous entendez par là?
Chanceux parce que, comment dire, quand j'étais plus jeune, j'ai su très tôt ce que je voulais faire. Et j'ai beaucoup d'amis ou de copains ou de copines qui, eux, ne savaient pas, à mon âge, et ne savent toujours pas, d'ailleurs, ce qu'ils veulent faire. Donc, quand je dis chanceux, c'est que je peux gagner ma vie en faisant ce que j'aime, mmh. ce qui est pas forcément donné à tout le monde, malheureusement. Donc, ouais, chanceux dans mon malheur. Voilà, j'ai réussi à l'utiliser.
Et d'ailleurs, la chance passe parfois par des belles rencontres, par des premières amitiés ou des premiers groupes,
ouais,
de musique. Est-ce que vous souhaitez nous en parler un petit peu?
Oui, complètement. Après avoir bougé de Béziers, je suis venu vers Alès, dans le Gard. Et donc, j'ai fait comme tous les jeunes enfants, quand tu commences la musique, donc tu vas à la... d'abord l'école de musique, puis après moi j'ai fait le conservatoire, mais d'abord l'école de musique, l'horaire aménagé au collège après ça. Et j'ai eu comme tous les jeunes musiciens un groupe de rock quand j'étais un peu plus jeune, donc vers mes 13-14 ans, avec des amis de là-bas. Et on a fait nos premières armes, comme ça, sans savoir trop, bon, c'était plutôt pour rigoler. Et après ce premier groupe-là, donc, qui s'appelait les Insomniacs, longtemps, ça faisait des reprises des années 60, on essayait de se saper un peu, faire les choses comme il faut. J'ai rencontré donc mon guitariste, Roméo Lachassaigne, qui est mon guitariste depuis maintenant 15 ans, avec qui j'ai tous mes groupes presque. Et puis le reste du groupe qui sera les Gris-Gris, donc ça a été mon premier gros groupe qui a marché, avec lequel j'ai pu partir en tournée à l'étranger. Voilà, j'ai pu voyager beaucoup avec eux, et voilà, et puis ça a un peu commencé par hasard, à l'Est, une ville où il n'y a pas grand-chose à faire, on s'est retrouvés à 5 garçons dans mon garage à répéter, et puis voilà, on a répété énormément avant de donner une représentation, enfin un concert, et ça a marché, enfin je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça a très vite marché.
Mmh. En effet.
Ouais, enfin on avait quand même tous, comme je te disais... On avait tous un but commun, enfin on avait tous un but, ouais, précis, on voulait tous aller au même endroit. Et dans un groupe de musique, en général, ce qui bloque, c'est quand il y en a un ou deux ou trois qui veulent faire des études ou veulent faire autre chose que la musique. Donc c'est quand même un frein énorme. Ouais. Et on a eu la chance d'être 5 gars d'Alès à vouloir faire la même chose.
Ouais, la même chose, c'est-à-dire ?
Faire du rock'n'roll, ouais, le faire à 100% tout le temps, tous les jours, nuit et jour, et de la meilleure manière possible pour le retranscrire le mieux possible. Mmh. Et là aussi je me dis chanceux parce qu'on a été très chanceux de se retrouver tous les 5, d'avoir le même but et d'avancer ensemble vite. Et donc voilà, ça a pris, la sauce a pris. Alors à l'étranger au début, en France un peu plus tard, mais on a eu la chance de pouvoir partir très vite à l'étranger.
L'étranger, c'est où alors ?
Alors la première tournée, c'était, je ne sais pas, on a commencé ce groupe, on avait 16 ans, 15-16 ans, et 3 ans, on a fait 3 ans de répétition, voilà, forcé. Alors 3 ans de répétition, 7 jours sur 7, comme des fous. Et à 19 ans, on a eu la chance de jouer à Barcelone. Et à Barcelone, on a rencontré le gars qui allait devenir notre premier manager, plus ou moins, un Anglais, qui en rentrant en Angleterre nous a rappelé en nous disant bah, écoutez, après le concert de Barcelone, moi je veux vous inviter en Angleterre pour jouer. Et ben voilà, de fil en aiguille, on a fait notre première tournée en Angleterre, on a enregistré un premier single. Et après voilà, tout est allé très vite. Après, on a la première tournée européenne, après l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la République tchèque, la Hollande, l'Écosse.
Ouais.
Et j'en passe.
Lucas, si d'autres musiciens nous écoutent, ils vont se dire, mais c'est un rêve.
Ah oui, c'est un rêve éveillé.
Ouais. C'est un rêve éveillé, ouais, c'est ça. Ouais.
Après, ouais, après il y a sa part de, enfin, parce qu'il y a énormément de sacrifices du coup derrière.
Alors le sacrifice, comme quoi, par exemple ?
Alors, ben, déjà le temps qu'on y met, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'avait plus du tout de vie sociale. C'était vraiment juste nous cinq, constamment ensemble. Mmh. Et ben, par rapport à la famille aussi, des sacrifices, par rapport, comme je te disais aussi, par rapport aux relations amoureuses, par rapport aux relations amicales aussi.
Les gens s'en vont autour de vous, les amis s'en vont,
c'est plus les amours qui s'en vont et c'est plus nous qui repoussions un peu les autres.
Ouais.
J'appelle ça maintenant avec le recul une secte. C'était carrément une secte. On était vraiment que tous les cinq tout le temps.
Ouais.
Et ça a été notre force aussi, hein, d'être vraiment bulldozer. Enfin, on écrasait tout sur notre passage en gros. Mais donc ça veut dire ben, aussi écraser les gens qui nous entourent. Et donc ça a été une force, mais bon, ça vient avec son lot de sacrifices aussi, malheureusement. Mais ouais, après on apprend à faire avec, bon, on réapprend du coup aussi. Bon, après avec le recul bien sûr, mais c'était ouais, on se sentait intouchable et moi je pense qu'on l'était parce qu'on a fait, on est allé très loin très vite. Et voilà, ouais, oui.
Oui, donc ce que vous avez pu incarner pendant ces 3 ans de répétition, avant de commencer vos propres concerts. Moi, il y a une anecdote dont vous m'avez parlé, Manu, c'est est-ce que vous pourriez revenir dessus sur l'anecdote du groupe King's Salami ?
Alors, King's Salami, oui. King's Salami and the Cumberland Free. C'est un des premiers groupes qu'on est, tous allés voir à Montpellier, à la Secret Place, c'est à Saint-Jean-de-Védas, c'est une salle de concert qui est toujours active d'ailleurs. Et moi, c'est une anecdote, c'est comme ça que je m'en rappelle en tout cas, on est tous allés les voir, ces gars-là. C'est devenu des amis par la suite, mais on a débarqué à la Secret Place et on a vu, je sais pas, c'était noir de monde, il devait y avoir 200-300 personnes pour ce groupe-là, qui à l'époque tournait énormément, à l'étranger, aussi en France d'ailleurs. Et quand on les a vus jouer, donc ils faisaient un peu la musique que nous on voulait faire, mais quand on les a vus jouer, qu'on a vu autant de monde, autant d'engouement autour d'eux, on s'est dit, bon, ben, ils font du rhythm and blues, mais ils le font pas aussi bien qu'ils devraient. Donc on s'est dit, ben, pourquoi pas nous le faire alors, et le faire mieux, du coup. Alors mieux, sans jeter des fleurs, bien sûr, mais le redonner, comme je te disais, ces lettres de noblesse au rhythm and blues, plus ou moins, et le faire à 100% avec voilà, le style, l'attitude, le son, les instruments, le répertoire aussi. Et que ça soit un peu moins festif ou un peu moins une blague.
Oui, le rhythm and blues, c'est plutôt mélancolique.
Ouais, oui,
il y a beaucoup de mélancolie.
Ouais, c'est que ça quand même, oui, ça quand même, ça vient quand même de voilà, c'est des Noirs américains.
Ouais.
Voilà, c'est le blues, ça quand même. Voilà, bon, après ça a été transformé en rhythm and blues par les Anglais, en tout cas par les Européens.
Ouais.
Mais la manière dont ils le jouaient, c'était quelque chose, c'était très léger. C'était pas sérieux du tout. C'était moi j'appelais ça du rock festif du coup. Mais et en voyant ça, on s'est dit mais on peut le faire ça mille fois, même mieux. Parce que si c'est ça que les gens appellent le rhythm and blues, nous on se devait, enfin en tout cas moi je me suis senti, je me devais de montrer ce que ça était vraiment, en tout cas le retranscrire le mieux possible. Je dis pas qu'ils le faisaient mal, hein, mais c'est juste que nous on se sentait, on se devait d'essayer de le faire mieux. Et voilà, et du coup c'est parti de là. Moi, pour moi, la première fois, c'est de regarder tous les cinq en se disant, bon ben les gars, venez, on fait ça, mais on le fait bien. Si on doit le faire, on le fait bien.
Donc voilà. C'est là que les gris-grises sont nées.
Ouais, plus ou moins. Après, il y a eu un laps de temps quand même où il y a eu plein de... Voilà, mais oui, les Gris-Gris étaient déjà nés, mais ça s'appelait pas pareil, on faisait pas le même style. Et ça a été vraiment, ouais, moi, le déclencheur en me disant, bon, ben voilà, si les gens, ils aiment ça, en le faisant mieux, les gens, ils aimeront encore plus, du coup. Et puis voilà, on voulait surtout rendre au rhythm and blues, c'est la tour de noblesse, quoi, en tout cas. Donc.
Et d'ailleurs, pour faire ça de la manière la mieux, en fait, pour vous, ouais. Vous avez vous-même... eu un sacrifice à faire, celui de la batterie.
Oui, c'est-à-dire que mon meilleur ami à l'époque, il y a Roméo, mais il y a aussi Esteban Grisé, le batteur, qui est un très bon pote avec qui j'ai fait le conservatoire de jazz dans ce laps de temps, entre mes 17 et mes 19 ans. Lui était déjà à la batterie dans ce groupe. Donc moi, quand je suis rentré dans ce groupe, il y avait déjà un batteur. Donc ils m'ont demandé d'essayer de jouer un autre instrument. Donc c'est donc l'harmonica, parce que dans le blues, l'harmonica c'est très important, le rhythm and blues, pareil, c'est très important. Donc j'ai dû un peu me retrouver à travailler un instrument que j'avais jamais travaillé. Donc ça m'a fait énormément de bien.
Qui n'a rien à voir avec la batterie.
Qui n'a rien à voir avec la batterie, parce que c'est un instrument mélodique. Ouais. C'est un instrument, voilà, c'est bon, pour moi, quand j'étais à la batterie au conservatoire de jazz, c'était toute l'harmonie musicale, ce qu'on appelle le solfège en école de musique, c'était purement théorique pour moi. C'est-à-dire que je devais l'apprendre par cœur sans savoir vraiment à quoi ça servait. Mmh. Et le jour où j'ai commencé l'harmonica, tout ça, tout ce que j'avais emmagasiné pendant 2 ans, a fait sens très vite. Donc en 3 mois d'harmonica, j'ai pris 3 à 4 ans de technique. Et très vite, parce que j'avais déjà appris aussi à travailler les instruments, la batterie, donc j'ai eu juste à le calquer, en gros. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est un peu lancé. Mais par contre, comme tu dis, ouais, le sacrifice que j'ai fait, c'est que pendant 5-6 ans, j'ai pas touché de baguette, du tout. Parce que je me devais de me concentrer sur l'harmonica. Et ça m'a un peu... Voilà, au début ça allait, mais après ça a commencé à me frustrer un petit peu. Parce que je me sentais pas complètement entier. Parce que bon, la batterie, j'en fais... Là, j'ai 30 ans, ça fait 25 ans que j'en fais, du coup. Et donc l'idée avec Roméo, donc l'idée a germé de faire un autre groupe, un groupe parallèle. Un groupe qu'on s'était promis de faire aussi quand on avait 15 ans, c'était lui à la guitare et moi à la batterie. Donc en même temps, après 5-6 ans avec les Gris-Gris, on a commencé en 2016, on a commencé un autre groupe qui s'appelle les Lulis du coup. Alors il n'a pas commencé comme ça ce groupe, parce que c'est le bassiste et Roméo qui se sont d'abord rencontrés. Mais ça rejoignait un peu ce qu'on voulait faire depuis des années avec Roméo. Et là, j'ai pu reprendre la batterie, et ce qui m'a fait beaucoup de bien. Et je me suis rendu compte que 6 ans sans en faire, c'était long, parce que je savais plus en faire du tout. Et j'avais un gros niveau, parce que j'en faisais énormément tous les jours, des heures. Et en fait, on se rend compte que si on s'arrête, même ne serait-ce qu'une semaine, on perd tout en fait. C'est juste de la répétition. Donc j'ai dû me remettre à la batterie, ce qui a été très dur. Parce qu'ils voulaient en plus qu'on fasse un groupe un peu de rock'n'roll punk, quelque chose qui est différent des Gris-Gris, mais qui va un peu plus vite. Et à la batterie, un peu plus vite, je ne savais plus du tout le faire. Donc la première année a été très difficile pour moi.
D'accord.
Techniquement, même reprendre mes mains, reprendre la corne, être un peu plus à l'aise à la batterie. Ouais. Mais ça a été un très bon exercice. Et voilà. Et puis en 2016-2017, quand les Lulis se sont lancés, ça a été une bonne année. Parce que j'ai pu enfin être complet. C'est-à-dire faire de l'harmonica, parce que je suis tombé amoureux de l'harmonica, mais il me manquait la batterie quand même. Et voilà, puis on a fait ça, on a commencé les Lulis comme ça.
Alors, est-ce que ça veut dire que les Gris-Gris n'existent plus ?
Non, les Gris-Gris n'existent plus. Les Gris-Gris, ça s'est arrêté il y a 3-4 ans.
D'accord, au moment où les Lulis sont nés.
Il y a eu un laps de temps de 2 ou 3 ans.
Vous avez fait les deux.
On a dû faire les deux avec Roméo, ce qui a été pendant 2 ans, en tout cas l'année 2018 et l'année 2019, très 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 compliqué, parce que comme on tournait énormément avec les Gris-Gris, quand on rentrait avec les Gris-Gris, on repartait en tournée avec les Lulis. Donc en fait, il y en a toujours 3 qui se reposent, 2 qui se reposent, mais les deux, Romo et moi...
Emmener un harmonica ou une batterie, c'est quand même
pas
pareil.
Alors c'est pas la même, moi j'avais ma petite valise avec les Gris-Gris, et puis après je me suis retrouvé avec une montagne de fûts de batterie.
De matériel,
Mais ça a été 2 ans très très éprouvants physiquement et mentalement, parce qu'on devait faire la même... Enfin, on n'avait pas de temps pour se reposer. Donc, et puis, comme les Lulis ont commencé à marcher autant, voire plus que les Gris-Gris, on avait... plus de temps du tout. Enfin, c'était vraiment à la moitié de l'année avec les Gris-Gris, l'autre moitié avec les Lulis.
D'accord.
Mais c'est ce qui nous a permis de faire notre intermittence, d'avoir assez de concerts et de cachets pour vivre de la musique correctement.
Bravo.
Et pour que les gens se rendent compte un petit peu du travail que ça implique, c'est-à-dire entre les répétitions, entre chaque tournée.
Ouais.
Tournée plus d'une centaine par an, j'imagine.
De quoi, de concerts?
Oui.
Ah oui, on devait être on a dû être à un moment donné à 150 concerts par an. Mais ce qui est troublant, c'est que nous, quand on nous a expliqué qu'avec 43 concerts déclarés seulement, on pouvait gagner trois fois plus que ce qu'on faisait nous avec 150 concerts au Black. On s'est dit, putain, on aurait dû s'en rendre compte bien avant, quoi,
ouais,
clairement.
Ouais.
Et donc, on s'est rendu compte que quand on gagnait 400, 500 euros chacun au Black pour 150 concerts par an, on pouvait gagner trois fois plus en faisant que 43 concerts.
Ouais.
Bon, après, les 43 concerts, il faut les trouver, parce que c'est des concerts déclarés, c'est en France, ouais. L'intermittent, c'est que en Belgique et en France, ça n'existe nulle part ailleurs.
D'accord.
Enfin, ce statut d'intermittence.
Ouais.
Donc, c'était énormément de travail, énormément d'organisation et beaucoup de concerts pour pas grand chose au final. C'était quoi la question déjà?
C'était celle-là pour que les gens se rendent compte un peu du sacrifice
c'est à plein temps quoi. C'est à plein temps. C'est pas un hobby quoi. C'est vraiment à plein temps, tout le temps. Et quand tu rentres pour te reposer, il y a toujours un truc à faire parce que tu dois repartir. Et une tournée, ça se prévoit sur... Bon, ça dépend les tournées, ça dépend les pays, mais il y a des tournées qui se prévoient 6 mois avant, même un an avant des fois. Donc, et puis, il faut avoir le temps aussi de revenir à la maison, de reprendre les répétitions, de créer de nouveaux morceaux, d'avoir le temps d'enregistrer. Donc tout ça, c'est de l'argent aussi. Donc c'est très compliqué quand t'as pas de label derrière ou quand t'as pas de mécène, je sais pas, mais bon, quand t'as pas quelqu'un derrière
une structure,
entreprise. Alors maintenant, nous, les Lulis, c'est une entreprise maintenant, on est peut-être 10 à en vivre, tu vois, mais pardon, je te tutoie.
Ouais. Mais, c'est pas un souci, mais 10, alors 10, vous êtes combien sur scène?
Alors on est 4 sur scène, alors voilà. Je dis 10, c'est pas sûr, mais en gros, on est 4 sur scène.
Ouais.
Alors quand on part, on a un driver bien sûr qu'on paye.
Ouais.
On a le label aussi.
Ouais.
On a une attachée de presse aussi qu'on paye. On a le booker. On a un booker à Bordeaux, Ludo, qui fait un travail énorme, mais qui se paye grâce à nous aussi. Enfin pas que grâce à nous, mais voilà, qui fait des cachets grâce à nous. Voilà. On a le label à Montpellier qui est en bise avec le label aux États-Unis, donc il y a aussi le label à Montpellier, donc c'est-à-dire que le mec qui nous fait les factures, voilà. Et en fait, moi je me suis rendu compte que c'était pas juste nous quatre en fait, et que un groupe c'était pas que 4 personnes sur 5 ou 5 ou peu importe combien vous êtes sur scène, mais il y a aussi énormément de gens derrière et ça responsabilise parce que tu te rends compte qu'il y a des gens qui en vivent grâce à toi, tu en vis surtout toi grâce à toi, mais ça fait vivre aussi des gens. Donc et c'est pas du tout le même drive qu'avec les Gris-Gris quand on a commencé, où on faisait tout seul, où c'était à l'arrache, on voulait pas déléguer. Et en fait, on s'est rendu compte que déléguer, c'est important parce qu'il y a des gens que c'est leur métier.
Et donc, ils le font mieux.
Voilà. Et nous, le seul truc qu'on nous demande, c'est de jouer sur scène, du coup. Et d'arrêter de se polluer l'esprit avec d'autres trucs. Parce que, voilà.
Et d'ailleurs, parlant des Gris-Gris, je nous propose d'en écouter une de vos chansons.
Ouais, du premier album.
Qui s'appelle It and Right.
It and Right. Ouais.
Super.
Yeah, right.
de retour sur Radio Divan avec Manu, batteur du groupe Les Lulis. Nous venons d'écouter une chanson des Gris, It's Unright. Ce n'est pas juste.
Non, ce n'est pas juste.
Alors Guylaine, vous allez nous lire un texte que vous nous avez concocté.
Oui, en effet, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir le musicien Manu du groupe Les Lulis, ce groupe montpelliérain de punk rock, je me suis autorisée à vous appeler comme ça. Il m'incombe donc de faire le lien entre rock et psychanalyse, parce que vous êtes invité, Manu, à une émission de psychanalyse. D'abord, la musique punk rock témoigne d'une rébellion contre la société. De son côté, quand Sigmund Freud s'oppose aux soins violents qui sont apportés aux femmes souffrant de paralysie des membres inexpliquées, femmes qu'on a qualifiées d'hystériques, le psychanalyste naissant se rebelle contre l'institution psychiatrique de cette fin du 19e siècle allemand. Freud va s'approcher de ces femmes, les écouter dans leurs plaintes et se démarquer de la meute psychiatrique dominante. Ensuite, le rock exprime un individualisme par anticonformisme. Qu'est-ce que la psychanalyse, sinon un anticonformisme par nature ? S'allonger sur un divan, associer librement ses pensées, les communiquer à une personne qui vous tourne le dos et ne veut que vous entendre pour mieux vous écouter. N'est-ce pas là un moyen unique pour laisser s'épancher l'individu hors du regard de l'autre, hors du jugement, ignorant l'expression du visage de l'analyste ? L'authenticité de l'individu est invitée à s'épanouir hors des conventions sociales et consensuelles. Enfin, les sujets de prédilection du rock ne sont-ils pas le sexe et la mort par les drogues qui frôlent la pulsion de mort ? Est-il besoin de rappeler que les trois essais sur la théorie de la sexualité, écrits par Freud en 1905, ont posé une bombe sur la vision de l'évolution de l'être humain en disant que la sexualité non génitale est présente chez l'enfant dès ses premiers jours. Enfin, là encore, subversion freudienne, quand le psychanalyste en 1920 identifie cette force mortifère au principe même du désir humain, force qu'il appelle pulsion de mort en opposition aux pulsions de vie. Il met ainsi en lumière cet au-delà du principe de plaisir, caractérisé par la répétition de séquences éprouvantes qui suggèrent une toute autre logique que celle du principe de plaisir. Alors oui, les histoires du rock et de la psychanalyse sont liées dans l'agressivité de l'inconscient collectif contre l'individu et par leur façon respective de faire vibrer le non-dit, le pas possible à dire. Et j'emprunte cette expression à Manuela Robottini dans Totem et Tambour.
Bien, merci Guylaine.
Avec plaisir.
Merci.
Je veux dire que ce sujet-là vous tient à cœur particulièrement. Vous souhaitez rajouter quelque chose peut-être ?
Peut-être je reviendrai sur les premiers propos de Manu quand il nous dit que la musique a servi de thérapie. Comment est-ce que... vous expliqueriez ça ? Comment est-ce que vous l'avez vécu, ça, ce moment-là de choix musical ? Et est-ce que l'instrument, par exemple, de la batterie a été le premier de vos instruments ?
Alors oui, ça a été. Mon père était pianiste et je suis persuadé qu'il voulait que je fasse du piano. Mais il m'a quand même posé la question. Et tout petit, je crois que c'était sur une chanson de Goldman à la radio, dans la voiture, et puis il y a un solo de batterie, enfin un break de batterie au début. J'ai juste pointé la radio du doigt et mon père m'a dit « ça, c'est de la batterie ». J'ai dit « ben, batterie ». Alors après, la batterie, c'est...
Après, à 5 ans, batterie.
Ouais. Après, la batterie, c'est quand même... On parle de batterie pour les hyperactifs, pour taper sur les tambours. Bon, alors c'est un cliché, mais bon, le cliché vient de quelque part quand même. Moi, je pense que je le suis, hyperactif. Mais la batterie, je sais pas pourquoi, mais c'était pas important que ce soit la batterie. Ça aurait pu être n'importe quel instrument.
Ah oui.
C'était un exutoire aussi. C'était le fait de pas pouvoir pleurer me permet... Ça m'a très vite soulagé de faire de la batterie parce que c'était très simple pour moi, c'était très noir ou blanc. C'est-à-dire que plus je faisais de la musique, moins je pensais à ma mère. Donc je me suis très vite dit, ben en fait, plus t'en feras, moins tu vas y penser. Mmh. Après, ça règle rien. Parce que je me suis rendu compte plus tard, il y a 3 ans, 27 ans, que j'avais rien réglé du tout, que le deuil, il était toujours là, que c'était une plaie qui était... qui était complètement ouverte. Mmh. Et je me suis presque même caché derrière la musique pendant des années. Et une thérapie parce que au début ça me faisait du bien à moi. Et quand je me suis rendu compte qu'on pouvait le faire en groupe, partager cette chose-là avec d'autres personnes, que ce soit sur scène. Hein. Moi, je pensais même pas encore à des gens qui pouvaient nous écouter ou que ça pouvait intéresser. Mais déjà, se communiquer par la musique avec d'autres personnes, ça a été quelque chose d'incroyable pour moi de le découvrir. Mmh. Et puis quand on a commencé à comprendre qu'il y avait même des gens qui étaient peut-être intéressés d'écouter ça et qu'on pouvait même faire du bien aux gens, ça a fait beaucoup de sens pour moi parce que ma mère était médecin généraliste dans un village. Donc elle n'était pas que médecin, elle était psy, elle faisait tout. C'était un médecin dans un village. Ouais. Et je me suis surpris à penser que je faisais quand même quelque chose qui se rapprochait de ce que ma mère faisait avant. Mmh. C'est-à-dire aider les gens, alors par la musique, parce que moi je m'aidais moi en premier, mais quand on se rend compte qu'on peut faire du bien à des gens, qu'on peut faire sortir des émotions en faisant de la musique, alors des émotions qui sortent des gens qui jouent avec vous, mais aussi des gens qui vous écoutent, et qu'en fait c'est aussi une thérapie pour d'autres, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui m'a choqué. Et je devais avoir 19-20 ans, j'ai une anecdote sur ça, mais je ne sais pas si on pourra en parler, mais... ouais, ce qui m'importait énormément, c'était de me soigner moi. Et en me soignant moi, je me suis rendu compte que je pouvais soigner les autres aussi. Et voilà, ouais, donc oui, c'est...
Donc vous étiez à la fois dans le sillon de votre père par le choix de la musique,
ouais, ouais.
Et en même temps dans le sillon de votre mère,
de ma mère, ouais.
En vous sentant vous-même...
Utile.
Utile.
Utile. Alors pas au niveau... c'est pas de la médecine, enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est
ouais,
pas...
Ouais, ouais.
Mais j'avais l'impression de faire un peu comme ma mère, de faire un peu le même métier que ma mère, ouais. Quelque part. Donc... Ça m'a beaucoup aidé ça m'a conforté dans mon choix en me disant que c'était le bon que je faisais. Et donc j'ai rien lâché. Alors comme tu disais tout à l'heure pour les musiciens qui nous écoutent, quand c'est des sacrifices, mais il faut s'y tenir. C'est quelque chose. C'est
indispensable.
C'est indispensable.
Sans ça, vous n'auriez pas eu ce que vous avez eu.
Non. Et au final, comme je disais tout à l'heure, un bonheur dans un malheur, c'est-à-dire que si ma mère était encore là, je pense pas forcément que j'aurais fait de la musique. Ou alors j'en aurais peut-être pas fait mon métier forcément. Mmh. C'est quelque chose qui m'a énormément aidé à pas perdre pied, à pas
dévier
ouais. ou faire une bêtise ou voilà. Mmh. Mais ouais. Et j'ai découvert une autre facette de la musique quand j'ai commencé à jouer en groupe avec mes amis et quand on a commencé à voyager et quand on a commencé à voilà, ressentir des émotions. Vous parliez dans votre texte, vous parliez du sexe sans... Du sexe...
Sexe et drogue.
Sexe et drogue, mais du sexe sans que ce soit du sexe génital, je ne sais plus ce que...
Oui, l'enfant.
Oui, l'enfant.
L'enfant, on dit qu'il est... il a déjà une sexualité,
ouais,
en fait, qui
lui appartient. Moi, sur scène, on avait notre sexualité sur scène. C'est-à-dire qu'on ne se touchait pas, mais...
Vous sentiez...
Ah oui, ouais, oui, j'ai ressenti des choses comparables au sexe.
Oui, oui.
Alors que, voilà. Et, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a... Je suis très sensible, du coup, c'est quelque chose qui m'a... Et j'ai découvert des sensations incroyables juste en jouant avec ces gars-là. Et puis, se rendre compte que le travail que tu abats, ben, c'est pas pour rien. Et qu'il y a des gens qui sont prêts à t'écouter, à mettre de leur temps, enfin, à te donner du temps, de l'argent... qui s'intéressent.
De l'argent, et puis aussi... on va dire un gros mot, mais de l'amour.
Oui, complètement.
Parce que quand on voit des personnes à des spectacles, ils sont complètement en fusion avec l'artiste.
C'est pas tous les concerts, mais il y a eu énormément de concerts où on ressent vraiment cette connexion avec les gens.
La connexion, oui, c'est ça.
Et c'est ouf connexion. Déjà la connexion qu'on a entre nous.
Ouais.
Mais en plus, si on peut connecter avec les gens aussi, c'est des sensations incroyables que j'espère que les gens pourront
ressentir aussi. Ouais.
Ouais, que je conseille à tout le monde.
Ouais,
c'est incroyable. Mais oui, voilà.
Moi, il y a une phrase très intéressante que Manu a dit, c'est moi, ça m'aide, je m'aide et je souhaiterais aider les autres aussi grâce à ça. Ça me fait penser à une citation très célèbre qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Alors, est-ce que vous, Manu, quelque part, le ciel vous a aidé peut-être à travers un rêve à un moment de votre vie?
Ouais. J'ai eu un... Le déclic, très petit, enfin pas très petit, je devais avoir 13-14 ans, mais j'ai eu ce déclic, j'ai fait un rêve un peu particulier où ma mère venait me voir sur mon lit de mort, dans un corps inutile, avec un esprit encore un peu vif, et en se penchant sur moi, et me disant « bon, est-ce que maintenant que tu peux plus bouger, est-ce que tu regrettes quelque chose dans la vie ?» Et ça m'a fait un électrochoc, et elle m'a dit « s'il te plaît, ne fais pas comme moi, n'attends pas de réaliser tes rêves, parce que ben, peut-être que tu... pourra jamais les réaliser, parce qu'on ne sait pas ce que la vie réserve. Donc s'il te plaît, quand tu veux faire quelque chose, n'attends pas demain, fais-le maintenant. Mmh. Et bon, je me suis réveillé, c'était plus comme un signal, enfin,
ouais.
Je sais pas comment dire, c'est très bizarre, parce que c'est un rêve, mais en même temps, c'est quelque chose qui m'a un peu traumatisé. Mmh. Elle m'a fait peur, elle m'a dit, regarde, moi, je me suis dit que j'avais du temps et que je me réaliserais mes rêves plus tard. Sauf que le temps, elle l'a pas eu.
Ouais.
Donc, c'était plus pour me dire, fais attention.
Est-ce que vous l'avez revue dans vos rêves, votre mère?
Oui.
Par rapport à votre carrière?
Oui, complètement, ouais. Ouais. Oui. Je la vois aussi à travers ma sœur, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau aussi. Donc, c'est quand même... Après, comme tu dis, le ciel, alors, je sais pas si elle me regarde. J'espère pas. Parce que, bon, le rock'n'roll, ça a aussi son lot de choses qu'on n'a pas forcément envie de montrer
à
la famille, voilà. Mais après, c'est nos anecdotes, ouais. C'est entre nous. Mais oui, je pense que oui, elle m'a énormément aidé à me faire me rendre compte que si je voulais faire un truc, il fallait que je le fasse,
ouais.
Maintenant.
Ouais.
Donc c'était la musique. Ouais. Donc moi, je me suis levé ce matin-là, je suis descendu à voir mon père, j'ai dit, j'irai plus à l'école.
Carrément.
Ouais.
Ah non, vous avez arrêté l'école à 15 ans?
J'ai arrêté l'école à 15 ans,
ouais.
Et mon père m'a demandé si j'étais malade. J'ai dit non, je ne suis pas malade, au contraire, j'ai une épiphanie là.
Ouais.
Et mon père, je pense que ça l'a attristé un peu, parce que j'étais plutôt bon, même très bon à l'école. Enfin, je m'intéressais, j'adorais l'école, c'était pas le problème. C'est juste le cursus que je voulais pas forcément suivre.
Ouais.
Et j'y ai dit, écoute, moi, voilà, il y a 8 heures de cours par jour. Ah ben, les 8 heures de cours, je vais les passer dans le garage à travailler la batterie. Comme si j'étais à l'école, en fait. C'est pas parce que je reste à la maison que je vais rien faire. Donc ça a été très dur pour ma famille. Hein. Parce que je parlais de sacrifices aussi tout à l'heure, c'est ça le problème. C'est les sacrifices aussi, c'est que ça a été très dur pour ma grand-mère, pour mon père, ma grand-mère ne m'a plus parlé pendant des années. Enfin, c'était très compliqué. Mon père avait très peur pour moi aussi, parce que à 15 ans, il faut prouver que tu vas gagner ta vie avec ça. Donc c'est très compliqué. Et bref, arrêter l'école à 15 ans, c'était quand même quelque chose de très difficile à assumer. Et je l'ai fait, hein, comme tous les autres du groupe aussi, ils l'ont fait à leur manière. Mais c'était compliqué.
Oui, donc on voit dans votre parcours plusieurs croisées des chemins qui vous ont... fait passer des caps. Donc il y a eu ce moment du rêve, il y en a eu plusieurs bien sûr. Ce moment peut-être du passage des Gris-Gris aux Lulises aussi.
Ouais.
Donc ça me permet aussi d'introduire une musique des Lulises qui est Zéro Ambition. A tout de suite.
Toujours tout ouvert, votre travers. Au cas où si c'est ma ligne droite. Non, je n'ai pas prévu de changer. Pas d'orgueil, même passé. S'il me faut vous ressembler, pas question d'essayer. Oui, à tout vous, capable de l'on a. Qu'on est pétant, attends-toi. Debout, contre mon destin. Catalogué, insupportable. De valable, pour toi, je n'ai rien de valable.
Retour sur Radio Divan, nous venons d'écouter Zéro Ambition des Lulises. Alors, c'est assez paradoxal parce que Manu, vous n'êtes pas au point zéro de l'ambition, pas du tout.
Et, on en a énormément.
Et donc justement, quelle est l'ambition, quelle est la vision de l'avenir que vous souhaitez?
Alors déjà, faire de la musique le plus longtemps possible, ça c'est sûr. Mais je sais bien qu'à terme, c'est pas forcément, il n'y a pas que ça que je veux faire dans la vie. J'aimerais bien faire d'autres trucs, enfin d'autres choses en tout cas. Bon, j'ai pas fini dans la musique parce qu'il y a plein de cases que j'ai pas encore cochées, comme par exemple les salles mythiques où j'aimerais jouer, les pays que j'ai pas encore fait. Mais grosso modo, oui, je sais que la musique ça va pas forcément durer. En tout cas, les tournées, les choses comme ça, ça va pas forcément durer. Et j'aimerais bien me reconvertir. Alors toujours dans la musique, par exemple luthier en batterie, ce qui n'existe pas forcément beaucoup en France.
Et, luthier en batterie.
Luthier, oui. Donc luthier comme pour les guitares, les violons, mais pour les batteries. Pour les batteries, alors j'en connais pas beaucoup. Et c'est quelque chose qui me passionne. Le bois me passionne de toute manière depuis tout petit aussi. Mais je m'étais dit d'allier les deux, donc de faire des batteries, d'en fabriquer en tout cas. Ça serait un de mes rêves, clairement. Et où être assez connu pour gagner assez d'argent pour me permettre de faire plus de choses, d'avoir plus de temps. Et puis aider les gens de la scène, comme les nouveaux groupes, par exemple, si je pouvais avoir un studio pour enregistrer les nouveaux groupes, ce que moi j'aurais aimé avoir quand j'étais un peu plus jeune. J'ai plein de rêves, c'est sûr, mais bon, c'est pas fini.
Les salles mythiques, alors, on peut en connaître une ou deux ?
Y aurait l'Olympia, clairement. Et puis il y avait les arènes de Nîmes, qu'on a fait avec les Gris-Gris, deux soirs d'affilée avec téléphone, en première partie de téléphone. C'était un peu un rêve éveillé.
Ouais, oui.
Mais il y a encore l'Olympia à faire, clairement. Il y a pas mal de salles aussi aux États-Unis que j'aimerais bien faire, ou des salles mythiques à Londres aussi. Mais l'Olympia, ouais, ça serait dans la bucket list, clairement. Inviter mon père à l'Olympia pour me voir jouer, ça serait... Mais je l'ai déjà invité pour voir Téléphone, son groupe préféré, avec son fils en première partie. Donc déjà, rien que pour ça, je peux presque mourir tranquille. mais plein de projets. Ouais. C'est sûr, mais bon, il faudrait 10 ou 15 ou 20 vies ou 100 vies pour faire tout ce que j'aimerais faire. Donc il faut choisir, ce que j'ai du mal à faire en général. J'aime pas choisir, je préfère avoir tout. Mais je sais que c'est pas dans le vrai monde, ça n'existe pas. Voilà.
Mais tout faire, surtout, vous semblez être perfectionniste.
Dans la musique, oui, c'est important, parce qu'encore une fois, les gens vous donnent du temps, de l'attention, de l'amour, de l'argent, et c'est quelque chose de très sérieux du coup. Et en tout cas dans la musique, j'essaye de l'être.
Ouais.
Alors je suis dans la musique, je ne suis pas partout, sur tous les points, mais en tout cas dans la musique, perfectionniste, en tout cas le mieux possible.
Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut conclure ensemble pour cette magnifique session avec Manu.
Merci beaucoup.
Alors, est-ce que vous avez un petit mot à dire pour nos auditeurs ?
Un petit mot à dire je sais pas, allez les Bleus.
C'est très bien, très bien.
Allez le 15 de France.
Eh bien, écoutez, merci Guylaine.
Merci Manu.
Merci Guylaine, merci Lucas.
Et passez tous une excellente journée. À bientôt.
Au revoir.
C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+.
Sur une musique originale de William Balfour,
à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.